vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Eh bien bonjour, merci d'avoir répondu positivement à notre sollicitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis né en France. J'ai été agriculteur, notamment en France, plusieurs années. Aujourd'hui, je vis en Bolivie maintenant depuis presque 2 ans. J'y avais déjà vécu pendant ma vingtaine. J'arrive à la quarantaine et je suis... installateur en solutions d'assainissement écologique, des toilettes, des récoltes d'eau de pluie. C'est l'activité que j'ai ici. Je vends ça et je l'installe chez les gens.
Alors, avec toi, on va discuter pendant toute cette heure de la Bolivie et notamment autour de la mobilisation qui s'est déroulée lors du mois de décembre. Mais avant de revenir là-dessus, est-ce que tu peux nous présenter le contexte social et politique de la Bolivie?
Oui, bien sûr. Souvent, c'est nécessaire, en tout cas quand on fait ces introductions, de repasser sur l'histoire de la Bolivie. Et toute l'histoire de la Bolivie contemporaine, elle prend racine dans cette opposition, quoi, entre d'un côté une société andine et de l'autre une colonialité européenne. Alors bon, c'est vieux tout ça, on pourrait dire. Mais ça a structuré, on va commencer par là, le paysage économique bolivien. Donc, il y a une très belle phrase qui datait des années 50, d'un intellectuel des années 50, pour qualifier la Bolivie. Il disait « La Bolivie, c'est une mine internationale soutenue par des domaines féodaux ». C'était intéressant comme point de vue. C'est-à-dire qu'il disait en fait « La Bolivie, c'est beaucoup de paysans qui servent à nourrir des mineurs pour exporter du métal, essentiellement. Et encore aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, bien sûr, les choses ont changé hein, par rapport aux années 50, il y a eu beaucoup de changements. Je vais les nommer maintenant, comme ça on les sera. En fait, avant les années 50, il n'y avait pas de droit pour les personnes qui étaient d'origine andine ou amazonienne, pour ce qu'on appelle les Quechua et les Aymara. Comme nous, un peu les Français, avant la Révolution française. On était des serfs, on n'avait pas de droits spécifiques. Ben jusqu'aux années 50, c'était pareil. Et pareil, il y a eu à ce moment, dans les années 50, une réforme agraire. C'est-à-dire que ceux qui étaient avant de simples serfs, eh bien, se sont répartis la terre des nobles, en l'occurrence les colons. Et malgré ces grandes transformations, la nationalisation de la mine, l'accès au droit universel, la réforme agraire, la structure économique de la Bolivie, par contre, elle est restée inchangée. C'est-à-dire qu'il y a environ 30% de la population qui vit de l'activité agricole. Il y a peu de personnes qui travaillent dans des secteurs comme la mine, comme l'exportation pour le soja, comme par exemple, on pourrait dire aussi les activités de cocaïne, hein, qui font partie aussi du paysage économique bolivien. Eh bien, même si c'est peu de gens qui travaillent dans ces secteurs-là, ce sont ces secteurs, les secteurs qui exportent des matières premières, qui représentent l'essentiel des flux économiques de la Bolivie. C'est un pays qui exporte des matières premières et qui a une population qui sert à soutenir les secteurs exportatifs. Aujourd'hui, toute la Bolivie n'est pas agricole. Par contre, dans les villes, les secteurs qui s'emploient à la reproduction de la vie quotidienne, les petits marchands, les petits artisans destinés au marché intérieur, les restaurateurs, puisque c'est un pays de grande gastronomie, toute cette population-là, eh bien, elle développe un marché intérieur, elle est majoritaire d'un point de vue démographique, mais par contre, économiquement, elle est marginalisée, comme est d'ailleurs marginalisé le secteur agricole. Donc en fait, on a en réalité 80% de la population en Bolivie qui appartient à un secteur que bon, l'économie définit comme informel. Enfin, l'économie, la science économique a tendance à définir comme informel. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pas grand-chose. Mais en tout cas, au niveau des typologies, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que généralement, ce sont des petites unités familiales de production. S'il y a des employés, c'est des employés familiaux ou il y a très peu d'employés, un peu comme les TPE françaises. Et que ce tissu-là, il représente 80% de la population active. Et que finalement, les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans des multinationales ou même dans des entreprises formelles, hein, c'est-à-dire qui payent des impôts, qui sont attestés, etc., bon, ben, ça ne représente pas grand-chose de la population. Donc en fait, la Bolivie, c'est un tissu de 80% d'agriculteurs et de travailleurs informels, artisans, petits commerçants des villes qui s'occupent à développer un marché intérieur pendant que quelques secteurs se bénéficient du gros de la thune en exportant de la mine, de la cocaïne et du soja et de la viande. Bon, alors, je ne te cache pas que ceux qui exportent du soja et de la viande sont un peu moins lotis niveau argent que ceux qui exportent des minerais et qui participent à la narco-économie.
Et qu'en est-il du chômage?
Alors, la notion de chômage, elle est assez complexe dans un tissu économique comme celui de la Bolivie, dans le sens où les gens ne sont pas salariés. Les 80% sont quelque part à leur compte ou au compte d'une famille. Donc la notion de chômage est différente. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que qui va amortir le ralentissement de l'activité économique? Eh bien, ce sont ces unités, puisque ben on loue leur résilience. C'est-à-dire que quand il y a un choc économique, ah ben non, super, le tissu économique familial de petits producteurs informels boliviens va pouvoir absorber la crise. Voilà. Donc il n'y a pas de chômage, mais il n'y a pas de boulot.
Et alors la question que là je me pose, enfin je te pose, c'est quel est le rôle de l'État?
Alors vraiment, historiquement, la place de l'État, je trouve ce théoricien des années 50 qui s'appelle Walter Guevara assez intéressant, même si ce n'est pas du tout ma cam en termes de position politique, c'est assez intéressant parce qu'il nous explique, si tu veux, la politique de l'État, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'il y ait une économie informelle qui produise de manière à pouvoir reproduire des secteurs qui, eux, ramènent de la thune. Donc, l'histoire de l'État bolivien, de la colonie, jusqu'à, on va dire, aujourd'hui, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas eu… c'est ça la colonne vertébrale. Puis, comme on l'a dit, il y a eu cette rupture à partir de 1952. Donc, d'une part, là, on parle de démocratie. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, avant, c'était des quelque part un peu mieux que des animaux, c'est-à-dire des serfs, des féodaux, des andins. Là, maintenant, on les considère comme des êtres humains. Ils ont le droit au vote. Ils ont même le droit à l'éducation. Hein. Donc, on peut dire d'une manière ou d'une autre, se créent des services publics à partir des années 50 qui servent à éduquer l'Indien, des fois même à le soigner. Et ensuite, il y a un autre élément qui est important, qui est que l'État nationalise les mines, et c'est avec cette nationalisation des mines qu'il a un budget. Un budget donc non seulement pour éduquer l'Indien, mais aussi construire des routes, hein, bâtir une infrastructure, faire en sorte qu'il y ait autre chose que des chemins de fer qui aillent directement de l'hacienda à la mine. Et que bon, alors certes, une partie de l'État, ça va servir à améliorer le chemin de fer qui va de l'hacienda à la mine, mais bon, il y aura aussi d'autres choses qui vont d'une manière ou d'une autre participer à la création de ce qu'on appelle en Europe un État social. Alors, je vais arrêter tout de suite les fantasmes. Bon, c'est un État social, certes, mais qui n'a absolument pas le même degré de revenus et la même ampleur que ce qu'on a pu connaître en Europe, même avec les gouvernements les plus libéraux. Mais pour une partie des intérêts boliviens, comme pour une partie de cette période-là, d'un des impérialismes à l'époque de la guerre froide, pour les États-Unis, c'était déjà trop. Hein. Donc, il y a eu quand même à un moment donné la volonté de faire tomber ce gouvernement du mouvement nationaliste révolutionnaire, celui qui a accompagné toutes ces mesures-là, s'est aussi mis à la tête d'un mouvement révolutionnaire qui l'a étouffé. Je voulais juste dire ça pour nous le rappeler. Mais même ça, même un gouvernement nationaliste révolutionnaire qui étouffe une révolution, même pour ça, pour les États-Unis, ça allait trop loin. Donc, il y a eu quand même, entre la fin du mouvement nationaliste révolutionnaire suite à un coup d'État orchestré par la CIA dans les années 50-60, le retour de la démocratie, c'est dans les années 80. Quoi. Donc, il y a eu quand même 20 ans de coup d'État militaire sur coup d'État militaire pour dire que quand même, on était allé trop loin. La nationalisation des mines, etc., etc. Et même si la démocratie revient dans les années 80, c'est le moment où le programme néolibéral s'impose et donc les mines sont dénationalisées, elles sont reprivatisées. Aujourd'hui encore, malgré les 20 ans d'Evo Morales, on est toujours sur une mine à 80% privée. Voilà pour parler un peu de l'étendue des services publics qui ont quand même, à l'époque d'Evo Morales, c'est-à-dire à partir de 2005, il y a un autre phénomène qui représente un saut dans l'avancée de l'État-providence en Bolivie, qui est la nationalisation des hydrocarbures. Il y avait du gaz, ils ont découvert, ils ont nationalisé le gaz. Et avec ça, il y a eu beaucoup de politiques social-démocrates tout à fait sympathiques, des augmentations de salaires qui ont été soutenues par une croissance qui était entretenue par l'exportation du gaz. On parle quand même des fois, pendant plusieurs années, d'une augmentation du SMIC de 10% par an. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à l'inflation et tout, mais pour donner un ordre de comparaison, nous, on se gargarise des accords de Grenelle en 68 qui représentent 10%. Donc, eux, ça, c'était les accords de Grenelle en Bolivie sous Morales, c'était Noël tous les ans, quoi. Hein. Donc, il y a eu quand même des trucs. On ne peut pas dire, il n'y a rien eu. Il y a eu des constructions d'infrastructures, notamment des constructions d'infrastructures hydriques pour l'agriculture. Il y a eu des politiques de développement. Il y a eu les premiers hôpitaux publics. Hein. Il y a eu globalement accessibles, c'est-à-dire qu'il y a eu le premier, on va dire, réseau de médecine qui a vraiment pénétré la Bolivie, qui était accessible pour tous. Et, c'est les années 2000-2010 hein, qu'il y a pour la première fois cet accès-là. Donc, il y a un certain nombre de choses tout à fait sympathiques. Mais le gouvernement Morales s'est retrouvé dans une difficulté que connaissent bien des pays qui exportent des matières premières. C'est que on a beau socialiser ou nationaliser un certain nombre de matières premières, et pas toutes, hein, puisqu'on a dit que, quand même, dans l'exportation, on avait nationalisé que le gaz. Hein. Avant, il y avait toute la mine qui était nationalisée. Ce n'était pas le cas sous Morales. Mais bon, malgré ça, il y a eu quand même un certain nombre de choses qui ont été nationalisées. Et bien, malgré ça, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on aurait nationalisé plus que ça allait empêcher le problème que je vais évoquer. C'est que quand on est un pays qui exporte des matières premières et qui importe des produits à haute valeur ajoutée, on est confronté à une crise structurelle. La crise structurelle, c'est que un jour ou un autre, la matière première disparaît, un jour ou un autre, la matière première baisse, et de toute façon, même si elle ne baissait pas et que la réserve était continue, ce qui est tout à fait abstrait mais qu'on pourrait considérer, il y a un blocage de ce qu'on appelle la balance commerciale. Parce que si on importe des choses chères et qu'on vend des choses pas chères, on perd de la thune, on va vers la banqueroute. Je veux dire, il ne faut pas du tout être un génie de l'économie pour comprendre ces phénomènes-là. Et donc, fut un temps, à l'époque de nos aïeux, où il y avait encore des gens qui croyaient au socialisme, on appelait ça les problèmes des voies vers le socialisme. Et on appelait ça les enjeux, comment on appelle ça, la deuxième phase de la construction du socialisme. Donc, ça ne concernait pas d'ailleurs que les socialistes, hein, c'était à l'époque, dans les périodes de décolonisation, ou même tout au long du XXe siècle, ça a été un enjeu. Comment développer le marché intérieur ? Comment développer des forces productives, comme diraient les marxistes ? Eh bien, si on ne se pose pas ces questions-là, on reste condamné à être un pays soumis à la logique de l'extractivisme. Et la logique de l'extractivisme, c'est la logique de la pauvreté structurelle de la population. Pourquoi ? Parce que toute cette population qui est majoritaire et qui travaille au développement du marché intérieur, elle n'a pas de thunes. Les seuls qui ont de l'argent, c'est ceux qui portent de la cocaïne et de la mine. Et donc, à un moment donné, si on ne fait que exporter ce genre de matières premières, que ce soit du gaz ou n'importe quoi, eh ben, ça ne marche pas. La population reste structurellement pauvre. Et c'est à ça que s'est confronté le gouvernement Morales. C'est à ça que s'est confronté le gouvernement Morales. Là, on est dans une crise en Bolivie absolue. Comme la Bolivie, on a connu beaucoup dans son histoire. Le prix du gaz a baissé à partir de 2015, premièrement. Deuxièmement, il n'y a plus de gaz. Troisièmement, il y a un déficit commercial. Donc, il y a une inflation monstre. Le dollar est beaucoup plus haut que ce qu'il pourrait être. Comme l'économie est dépendante de ses importations, puisqu'elle n'a pas développé de marché intérieur, elle est bien évidemment sensible au fait que le dollar ait augmenté. Et donc, on se retrouve dans une économie de pénurie. Où est-ce qu'on va acheter de l'essence ? Comment on va acheter des médicaments ? Comment on va acheter du matériel de construction ? Comment on va faire fonctionner l'économie si personne ne veut nous acheter nos bolivianos, nos économies en bolivianos ? Tout le monde s'en fout, puisque aujourd'hui il n'y a plus de gaz. La seule chose qui reste, c'est la cocaïne. Alors, c'est pas assez pour faire fonctionner le pays. Voilà. Et cette crise-là, c'est la même crise qu'ont connue tous les pays socialistes qui ont voulu se baser sur une stratégie du socialisme des matières premières. Bien sûr, à des degrés différents. Le Venezuela, il était dans ce même genre de situation, mais dans quelque chose de beaucoup plus aigu. C'est-à-dire que la part des revenus pétroliers dans le PIB du Venezuela était largement supérieure à la part du PIB du gaz, des exportations de gaz en Bolivie. Mais la logique est la même. Et donc, à un moment donné, la gauche s'est effondrée et puis là, bah, tout ce qui était un peu les quelques services publics qui s'étaient donnés, et bah, actuellement, sont remis en cause. Voilà, pour répondre de manière exhaustive à ta question.
Tout à fait. Et si on continue de tirer le fil, donc en octobre dernier, la Bolivie passe à droite. Et c'est dans ce contexte que, dès le mois de décembre, est proposé un pack de réformes néolibérales contre lequel va s'organiser la mobilisation sur laquelle nous voulions revenir avec toi.
Oui, et en fait, il faut comprendre en fait, qu'il y a eu 20 ans d'un parti, le mouvement au socialisme, il y a eu 20 ans de gouvernance de ce parti-là. Et ce parti a essayé, hein, de, comme on l'a dit, construire des politiques social-démocrates, mettre en place un État social, ce qu'on ne critique pas, hein. Mais elle s'est fait dans cette limite qui a été le socialisme des matières premières qui est rentré en crise parce que baisse du prix de gaz et fin des réserves de gaz. On ne sait même pas s'il y a vraiment la fin des réserves de gaz ou pas. Alors, peut-être on n'en a plus trouvé, mais peut-être aussi il n'y en a plus, hein, parce qu'à un moment donné, les ressources de la planète s'arrêtent. C'est aussi menaçant, mais c'est possible. Donc, les promesses du socialisme, 20 ans de promesses du socialisme, à un moment donné, les gens se lassent. L'électorat populaire, qui était fidèle à ce parti, lui ont tourné le dos pour un candidat qui, quelque part, incarne une espèce de forme de transition traditionnaliste. C'est vraiment une famille, donc c'est la famille Paz. C'est la quatrième fois qu'elle gouverne la Bolivie en deux siècles. Hein. Donc on est vraiment sur une oligarchie exercée. Je ne sais pas comment on pourrait les qualifier dans un équivalent français, quoi. C'est vraiment un centre droit populiste et catho. Voilà. Donc tout de même, l'enjeu, même si pendant les élections, on essaye de mettre en avant un espèce de discours populaire, qu'on est différent des ultralibéraux, qu'on est... Bon, une fois arrivé au pouvoir, dans l'exercice des faits, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup des alliances commerciales qui s'étaient construites à l'époque d'Evo Morales s'étaient construites dans la dynamique qu'on appelle Sud-Sud. Bon, pour le dire pudiquement, en gros, t'es aligné à la Chine, quoi. Hein. À l'Iran, à la Chine, à la Russie, à ce bloc-là. Bon, bon, pourquoi pas, hein, le socialisme, une fois qu'il n'y a plus rien, on s'accroche aux branches qu'on imagine. Hein. Mais, bon, quoi qu'il en soit, une fois que la droite a récupéré le truc, il y a un changement de taulier, quoi. Hein. Donc là, les États-Unis, nouveaux propriétaires des lieux, ils ont dit, écoutez, les amis, votre histoire d'État social, c'est bien rigolo, mais ça s'arrête. Donc pour eux, le plus important, par exemple, c'était la question de l'exportation de viande. Il y a des quotas en Bolivie. Il ne faut pas exporter toute la viande qu'on veut. Il faut d'abord fournir le marché national. Et une fois que tu as fourni le marché national, ce qui assure que le prix de la viande soit accessible aux Boliviens, hein, déjà qu'il a énormément augmenté. En 2 ans, moi, j'ai vu le prix de la viande, en tout cas en valeur, multiplié presque par 2. Bon. Eh bien, pour limiter ça, on avait dit qu'il fallait des quotas d'exportation. Alors là, le nouveau gouvernement a dit non, il n'y a pas de quotas d'exportation, on peut exporter toute la viande qu'on veut à l'extérieur, et les Boliviens, ils n'ont qu'à acheter le prix de la viande au prix de la viande du marché international. Bon. Mais t'imagines qu'un Bolivien qui achète du prix de la viande au prix de la viande que le même éleveur bolivien le vend au Mercosur, il n'a pas les moyens. Donc ça a choqué la population. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dans cette loi. Alors, en fait, c'était un package avec énormément de choses. Il y avait le retrait des subventions aux hydrocarbures, la facilitation de l'investissement étranger, cette question du quota de viande qui saute. Alors ça, vraiment, c'est partagé, quoi, que ce soit scandaleux. Il y avait quelque chose quand même qui est compliqué sur la question de la subvention, c'est-à-dire qu'on a une subvention, il y a une subvention à l'essence et aux hydrocarbures, parce que la Bolivie exporte du gaz, ou exportait du gaz quand il y en avait, mais n'a pas d'essence. Donc elle importe l'essence. Elle importe l'essence et elle la subventionne, hein, pour faire tourner l'économie. Bon, alors on peut dire c'est très sympa, c'est socialiste, hein, c'est génial, il y a une intervention de l'État, etc. Mais bon, on peut dire aussi qui bénéficie massivement de la subvention de l'hydrocarbure. Et là, on retrouve nos amis de la mine et de la grande exploitation, comme on appelle ça, de l'agro-industrie du soja et de la viande. C'est un peu ambigu. C'est un peu ambigu tout ça, parce qu'à la fois c'est une mesure socialiste, mais c'est une mesure socialiste qui bénéficie au secteur exportatif privé les plus riches. Alors bon, quoi qu'il en soit, tout ce package-là, que moi je ne maîtrise pas complètement, je ne pourrais pas exprimer toutes les lois, hein, mais l'essentiel est là. L'essentiel était de privatiser un certain nombre d'entreprises publiques qui disent déficitaires, de supprimer un certain nombre de services publics, ou d'en baisser la qualité ou le financement, de lever un certain nombre de subventions ou de quotas. Hein. Et en gros, pour donner le teasing direct, le gouvernement a perdu. Hein. Le gouvernement a perdu. La seule chose qu'il a réussi à imposer, ça a été la levée des subventions. Aujourd'hui, il y a des subventions, il en reste un peu, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Et ça a été peut-être accepté par les organisations sociales, justement, parce qu'il y avait cette ambiguïté de cette réforme des subventions. Mais pour le reste, en tout cas, il y a eu une mobilisation. Cette mobilisation, elle a permis le retrait de cette question de la fin des quotas, donc il y a toujours des quotas. La facilitation des investissements des entreprises étrangères, c'est suspendu, tout ça est annulé. La privatisation des entreprises publiques, pour l'instant, c'est reporté. Et la fin d'un certain nombre de services publics ou de la qualité, tout ça est reporté, en fait. Et bon, bah là, on est un peu dans l'œil du cyclone, parce qu'il va y avoir, dans quelques mois, les élections municipales. Et donc, je pense que la droite, après cette défaite éclair qu'elle a subie, elle a peut-être envie d'attendre l'échéance électorale avant de faire d'autres tentatives peut-être plus antipopulaires.
Et c'est quoi, selon toi, les éléments qui explique ce recul aussi rapide du gouvernement?
Je crois qu'on peut expliquer la vitesse éclair du mouvement social parce que il a, on pourrait dire, fait planer l'ombre d'une unité populaire et qui a effrayé le gouvernement fraîchement élu. Il y a eu donc cette famille, la famille Paz, mais il y avait aussi un personnage étrange en termes de vice-président, qui initialement était un policier qui s'est fait exclure de l'institution pour dénoncer des phénomènes de corruption interne. Il est devenu TikToker et il a eu initialement un discours justement ultralibéral. Mais venant lui-même d'une sociologie populaire, une fois qu'il s'est allié avec Paz, puisqu'au début il était allié avec un candidat ultralibéral qui finalement n'a pas pu se présenter, il s'est rendu compte que son identité populaire lui donnait un crédit et un capital politique. Et en bon stratège, il a décidé de la jouer « je suis populiste de gauche ». Et donc c'était assez étonnant, parce qu'un gouvernement fraîchement élu qui a dit « ah ben nous on a enfin fini avec le socialisme, blablabla, etc. C'est le grand changement, mais en même temps c'est un changement cool parce que c'est un changement centriste ». Eh bien, qui aurait eu toute la légitimité hein, au sens institutionnel et symbolique, se retrouve au sein d'un conflit fratricide entre président et vice-président, ce qui fragilise sa légitimité institutionnelle. Ça déjà, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est une organisation sociale qui s'appelle la Centrale Ouvrière Bolivienne, donc qui est une organisation plus urbaine, mais j'ai envie de dire aussi plus formelle. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des secteurs de la COB qui sont formés par ce qu'on a décrit comme les secteurs informels, c'est-à-dire ces petites unités familiales de production. Mais l'essentiel de la COB, ce ne sont pas seulement que les fonctionnaires, comme ça peut l'être le cas en France, hein, mais il y a aussi ce qu'on appelle les fabriles, les ouvriers. Il y a aussi quand même un certain nombre d'autres secteurs. On va dire que ça représente le prolétariat formel, qui soit effectivement essentiellement public et parapublic, mais aussi privé. Et c'est cette organisation-là qui a initié la lutte. Ça, c'est assez intéressant parce que ça a permis de ranger une partie de l'identité urbaine dans le pôle de la contestation. Et donc, assez rapidement, par exemple, dans la zone où je vis, moi, dans la vallée de Cochabamba, proche de la ville, il y a une zone qui s'appelle la zone sud, qui sont les quartiers populaires. Et là, les quartiers populaires, ils sont organisés en organisation territoriale de base, on dirait nous, comité de quartier, mais qui font plus que s'occuper des fêtes entre voisins. Là, en l'occurrence, les comités de quartier, ils ont appelé à la mobilisation, au blocage. Et ce sont les quartiers pauvres, hein, les quartiers populaires, les comités de quartier des populaires, qui ont rejoint l'appel de la COB, assez rapidement, dans le secteur urbain. Et dans les zones rurales, on avait vécu une situation assez complexe, puisque avant le fait que le MAS perde le pouvoir, il y avait déjà eu des oppositions internes aux organisations paysannes. Et les oppositions internes aux organisations paysannes, elles avaient amené à des conflits, à des scissions internes. Il y en avait qui étaient avec l'ancien président Evo Morales, et il y en avait qui étaient avec le récemment ancien président Luis Arce Catacora. Et c'était des conflits fratricides hein, entre organisations, des fois entre villages, des fois entre familles. Eh bien, suite à l'annonce de cette réforme, il y a eu, on ne peut pas dire une réunification, mais au minimum un rapprochement hein, dans un tissu agricole, d'organisation agricole fragilisée par ces divisions. Et donc, assez rapidement, il y a eu l'appel de la COB. Bon. La COB, elle fait des grèves, des manifestations, peut-être quelques points de blocage. Puis il y a eu l'arrivée des organisations, on va dire, territoriales de base des quartiers populaires qui, elles, ont commencé à développer ce qu'on appelle la stratégie des barrages des 1000 coins, c'est-à-dire qu'on multiplie les points de blocage minimum assez mobiles sur la ville pour paralyser. Et puis, quand les organisations paysannes ont décidé de rentrer en jeu, elles ont commencé à faire ce qu'on appelle la stratégie du siège, c'est-à-dire on paralyse les points d'accès à la ville. Et tout ça était en maturation. Et il y a eu un appel unitaire, de ce qu'ils appellent eux un commandement général du blocage, qui était de commencer, on va dire, je ne me rappelle plus de la date, mais ils ont annoncé ça vendredi, et que lundi on allait radicaliser et coordonner tout, c'est-à-dire que les blocages paysans, ils allaient être coordonnés sur le territoire national. Le blocage des 1000 coins de rue, dans les villes, il allait être coordonné au niveau national. La grève générale, elle allait être amplifiée. Enfin, toutes les logorées, les appels à la mobilisation, voilà, toute cette manière très enthousiaste hein, que peut avoir le vocabulaire militant bolivien de qualifier les choses. Et donc, bon, une fois qu'il y a eu toute cette logorée qui a été mise en place le vendredi, le dimanche soir, le gouvernement s'est retiré. Le gouvernement, il était quand même habitué à jouer sur une fracture qui avait marqué l'histoire récente de la Bolivie, qui est la fracture qui s'est passée en 2019. En 2019, on va le faire très simple, hein, le gouvernement, et puis c'est une vision subjective, le gouvernement bolivien, qui était à l'époque le mouvement au socialisme, fait des élections. Donc il y a les élections, et on regarde tous le résultat des élections. Alors on nous dit, bon ben voilà, Evo Morales, c'est peut-être, il y aura un second tour, il n'a peut-être pas gagné au premier tour. C'est la première fois quelque part depuis l'élection d'Evo Morales, que l'arrivée du MAS, qu'il y a un second tour, qu'ils ne sont pas si hégémoniques que ça, etc. Et puis bon, ok, arrive la pub, bon on regarde la pub, on vend du fromage, n'importe quoi, et puis après c'est relémission. Et là il y a écrit, ah ben non, Il y a plus le, on compte plus les élections. On va vous dire demain finalement si. Et puis le lendemain, on dit ah ben non finalement. En fait, il n'y a pas de second tour. Evo Morales, il a gagné les élections. Alors bon, si tu veux, les gens ils disent non, il y a fraude là. Là, c'est bizarre. On n'arrête pas le programme télé en plein milieu pour vendre de la pub. On revient ensuite après. Qui c'est qui a gagné quand même? On fait le décompte public. C'est ce qu'on a. Alors bon. Certains disent qu'il y a fraude, d'autres disent qu'il n'y a pas fraude. Mais suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Au lieu, on dit on refait le tour des élections, il y a un deuxième tour, il ne s'est pas passé ça. On a dit on vire Evo Morales et on met à la place un gouvernement soutenu par l'armée. Quoi. Bon, alors certains disent que ce n'est pas un coup d'État. Tu vois, il y a des gens qui disent que ce n'est ni une fraude, il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas un coup d'État. Bon, il y en a d'autres, moi par exemple, je considère qu'il y a... À la fois, il y a fraude, hein, puisque bon, on n'arrête pas le programme télé comme ça. Puis à la fois, il y a coup d'État, hein, parce que bon, si l'élection elle est frauduleuse, on refait l'élection. On ne met pas une meuf sortie de nulle part avec l'armée, les États-Unis qui disent c'est à moi maintenant. Et puis ils ne veulent pas refaire d'élection. C'est-à-dire qu'on est en 2019, logiquement, tu refais les élections. Et la meuf, elle ne veut pas. C'est appelé Jeannine Agnès, elle ne veut pas faire des élections. Puis ceux qui, à un moment donné, ont voulu protester contre le coup d'État, ils sont sortis. Puis le gouvernement, il avait le droit de tirer sur les gens. Il y a eu des centaines de morts. Enfin bon. C'est vraiment un drame, tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Comment la droite a manié tout ça? Comment la droite manie ce discours-là? Elle va voir les classes populaires urbaines, ceux qui ont même, qui sont en dents, hein, mais qui ont fraîchement participé à une migration de la ville, de la campagne à la ville. Eh bien, ils vont leur dire, écoutez, nous sommes un pôle de civilisation. Hein, nous sommes des gens quand même assez raisonnables. On est urbain, on porte des valeurs progressistes, on est démocratique. Par rapport, si vous voulez, à un archaïsme rural, andin, enfermé dans le ressentiment et pro-chinois. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de fracturer l'identité populaire, et notamment l'identité populaire andine, pour la diviser entre indien archaïque et bon indien intégré moderne. Et donc, tout ce narratif-là, c'est un narratif qui crée des divisions populaires. Et ce qui a été intéressant cette fois-ci, ça a été qu'un acteur qui parfois peut tomber dans ce genre de discours, ça peut être par exemple la COB, hein, parce que c'est un syndicat d'une partie du prolétariat qui est la plus intégrée, qui pourrait être sensible à ce genre de discours et qui malheureusement a pu l'être. Hein. Pendant la période du coup d'État, on a vu des secteurs de la COB soutenir la droite parce que quelque part, il y en a marre de tous ces sauvages des campagnes. Bon, c'est des phénomènes minoritaires, c'est pas toujours des phénomènes visibles, mais il y a des contradictions de classe, hein, comme disait Mao Tse-Tung, au sein du peuple. Sans en faire référence, hein, je veux dire, tout en critiquant hein, l'héritage et l'œuvre de Mao Tse-Tung. Et donc, quel discours on arrive à construire qui brave ces oppositions sans pour autant faire un « oui, oui, béni, oui, oui, on est tous contents, on est tous amoureux, on est tous ensemble », c'est pas vrai. Mais ces contradictions de classe au sein du prolétariat, comment on arrive à en parler sans que ça devienne un instrument de division du prolétariat par la droite? Et ce qui est assez important dans l'histoire bolivienne, c'est les moments où on arrive à construire une identité qui à la fois prend en compte la question des différences de classe, mais il faut avoir un discours qui rend visible ces différences tout en construisant un bloc unitaire vis-à-vis d'un discours de la bourgeoisie qui lui tente de fracturer cette population-là. La révolte de 1950 et même avant les grandes périodes de l'histoire bolivienne, elles ont toujours été rattachées à ces enjeux-là. Comment la population urbaine et la population rurale, elles arrivent à trouver un compromis malgré leurs différences de classe pour pouvoir s'affronter à l'oligarchie. C'est ce qui s'est passé dans les années 50. Bien sûr, ça a été récupéré ensuite par un mouvement. C'est ce qui s'est passé vers la fin des années 70, justement, quand il a été question de retourner à la démocratie et d'en finir avec les dictatures Plan Condor, Guerre froide, etc. C'est bien évidemment ce qui s'est passé à l'époque de l'arrivée d'Evo Morales au pouvoir. Et c'est malheureusement ce qui a été difficile, ou les difficultés qu'a rencontré le mouvement social à l'époque du coup d'État. Et c'est ce qui s'est cette fois-ci bien passé pendant cette dernière lutte. C'est-à-dire qu'il y a eu la construction assez rapide d'un discours, d'alliances, de promesses qui ont un peu chauffé tout le monde à blanc. Et ils ont dit « Allez, on y va, c'est maintenant ».
Là, on est revenu ensemble sur la mobilisation qui s'est déroulée lors du mois de décembre, mobilisation victorieuse. Néanmoins, la question qui se pose maintenant, c'est quelle perspective, dans le contexte néolibéral, dans lequel se trouve la Bolivie ?
Il nous faut aborder l'actualité bolivienne dans la séquence internationale qu'on est en train de vivre, pour comprendre les événements, pour comprendre ce qui est en jeu, ce qui se joue sur le territoire, ce qui se joue aussi sur le territoire latino-américain en général. Il y a eu la fin de l'URSS en 92, et qu'à partir de ce moment-là, les conflits internationaux sont des conflits d'accumulation de pôles capitalistes. C'est-à-dire qu'il s'agit, il n'y a même pas de projet politique, bon, il n'y a même plus de médiation hein, politique, certains critiquaient l'URSS comme un empire, ça s'entend. En tout cas, il n'y a plus ça. C'est-à-dire que c'est directement des pôles d'accumulation en concurrence. Quelque part, on a l'impression que la contre-offensive suite au 7 octobre génocidaire de l'armée israélienne sur Gaza, elle marque une contre-offensive occidentale. C'est-à-dire que là, les Occidentaux, de manière générale, ils disent toute cette espèce de pôle d'en face, là, cet empire rival d'en face, il y en a marre, qui commence à résister, on les attaque. Et ça se manifeste, disons, en Amérique latine, par une hostilité à tous les régimes qui ont des liens commerciaux avec la Chine et la Russie. Le Venezuela, par exemple. Donc, la Bolivie a échappé à ce jeu-là militaire parce que la Bolivie a été conquise démocratiquement par le camp de la droite, qui est plutôt rattaché au bloc occidental, au bloc États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pro-chinois. Hein. Ça veut dire que concrètement, là, c'est moins bien. Là. Les exigences, on va dire, économiques des États-Unis qui veulent reprendre pied sur l'Amérique latine, c'est des exigences concrètes. Quand on parle aux États-Unis de redéploiement de la doctrine Monroe, c'est-à-dire de dire, écoutez les gars, l'Amérique latine, c'est à nous, c'est pas pour en faire un havre de paix, c'est pour en faire quelque chose de rentable pour l'économie des États-Unis. Et donc en faire quelque chose de rentable, c'est bien évidemment capter les flux et faire en sorte de limiter les partenaires commerciaux de manière à ce qu'il y ait un monopole vis-à-vis des États-Unis. Donc ce qui est en train de se jouer pour la Bolivie, c'est globalement la suppression de toutes les politiques de nationalisation des ressources naturelles pour les privatiser. Qu'est-ce qu'ils veulent aussi? Les politiques sociales, ça fait chier, même si on n'a pas beaucoup. Ça fait baisser le taux de profit. Donc on ne veut pas de politique sociale. En réalité, et puis, pour le dire, si la population proteste, c'est des terroristes. Et on les fout en prison. Donc, non seulement il y a une crise économique qui est quand même très grave, parce qu'il y a une forte inflation, il y a l'accès vraiment aux ressources les plus basiques sont menacées. Il y a même l'ONU qui a parlé de problèmes d'alimentation. Et en plus de ça, cette crise, donc le narratif libéral, et de dire « Ah bah oui, mais cette crise, c'est normal, c'est parce que les socialistes, ils étaient au pouvoir, ils ne savaient pas gérer. Eh bah oui, puisqu'ils étaient corrompus, etc. Donc on va tout privatiser, ça va être vachement mieux. » Et donc c'est ça leur discours. Mais sauf qu'il y a des résistances vis-à-vis de la population. Donc quel est l'enjeu? L'enjeu est de dire « On va mettre en place, premièrement, une série de lois répressives. On n'a pas le droit de bloquer les routes. Si tu vas en route, prison très longtemps, on te poursuit, etc. » Vraiment des lois très dures. Et l'autre enjeu, c'est de dire il n'y a pas de ressources naturelles étatiques. C'est tout au multinational. Et le dernier enjeu, c'est de dire toutes les politiques sociales, ça saute. D'ailleurs, ils ont voulu faire un truc, ils n'ont pas réussi. Personne n'a gagné. Bon, ils se disent, bon, peut-être on attend les élections, les mecs, comme ça. Bon, c'est mieux, on s'occupe des élections. Et après les élections, en gros, ce qui est menaçant, c'est ça. C'est la loi anti-blocage. Et tout ce qui n'est pas passé dans la dernière réforme, c'est essayer de le faire passer. Et donc, voilà à quoi, sans doute au futur, à quelle sauce on va être cuisiné. Je veux parler vraiment de l'anecdotique pour expliquer un peu les enjeux de cette loi-là. Je vis dans une ville qui s'appelle, dans une municipalité qui s'appelle Quillacollo, dans laquelle il y a de la ville et de la campagne. Elle est réputée pour être très corrompue. Bon. La corruption, c'est quelque chose d'assez chronique dans les pays issus de structures coloniales, parce que quelque part, la manière de gérer la société, comme c'est une société assez organisée dans un tissu communautaire, dans le monde urbain, comme on l'a vu avec, les communautés sont devenues des syndicats. De l'autre côté, les migrants des villes ont construit des associations de quartier qui quelque part ont des fonctions analogues à celles de la communauté andine. Donc on est en face d'une société très organisée. Donc, comment on fait pour gérer ça quand on est l'État? On descend dans ces structures et on essaie de les désarticuler. Comment? Par la corruption, le prébandalisme, le fait de... Donc c'est pas spécifique du tout à la Bolivie, c'est pas spécifique à un gouvernement en particulier, mais je sais pas pourquoi à Quillacollo, c'est vraiment ça les fait kiffer quoi. En tout cas le mode de gestion de la mairie quoi est très corrompu. Donc par exemple il y a un truc qu'on appelle le petit déjeuner scolaire. Il y a pas de cantine, mais il y a un petit déj scolaire gratuit. Bon c'est nickel, pourquoi pas, c'est déjà ça. Mais si tu veux, la mairie le vole systématiquement. C'est-à-dire que c'est la thune. Du petit déj scolaire passe par les mains de la mairie et puis elle disparaît.
Et donc les gens, ils disent quoi, les parents d'élèves? Les associations de parents d'élèves, genre FCPE et compagnie, ils disent « Ah bah non, blocage des 1000 coins de rue, c'est-à-dire toutes les écoles avec toutes les parents d'élèves, etc. » Ils disent « On va bloquer toute la ville de Kiakoyo. » Et bon, bah, dans la journée, généralement, on retrouve l'argent pour acheter le petit-déj, quoi. Et donc, si tu veux, si t'empêches les gens de faire ça, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire que l'instrument du blocage en Bolivie, c'est un instrument qui est assez développé, avec une intelligence stratégique, il faut le reconnaître. Mais elle est aussi assez développée parce que comme c'est une économie informelle, avec beaucoup d'acteurs indépendants, leur moyen de faire pression sur les décisions macroéconomiques, sur le gouvernement, sur le grand capital, eh ben, eux, s'ils font grève eux-mêmes dans la meuf qui vend des jus d'orange dans la rue, elle fait grève, bon, bah, tout le monde s'en fout. Donc la meuf qui fait des jus d'orange dans la rue, quand elle considère qu'on vole le petit-déj de ses enfants, elle se réunit avec son association de parents d'élèves et elle décide de bloquer Kiakoyo. Et comme ça, elle récupère le petit-déj. Et en fait, bien souvent dans l'histoire bolivienne, ces stratégies de blocage, d'encerclement des villes ont été celles qui ont permis les grandes transformations historiques. Parce qu'il ne s'agit pas de guérilla, mais il ne s'agit pas non plus de stratégie uniquement électorale. C'est une stratégie sociale, c'est-à-dire la population en général s'organise pour créer un effet dans la société. Ça crée des instabilités et des ruptures possibles, parce que quand à un moment donné, la ville elle est bloquée pendant plusieurs jours, que le prix de la bouffe augmente, que la population se demande comment elle va faire, que toute l'activité économique est bloquée, qu'en plus de ça, à l'intérieur de la ville, il y a des gens qui eux-mêmes bloquent ou qui veulent attaquer, commencer à attaquer les zones de pouvoir, les quartiers riches, les maisons des dirigeants. Enfin bon, ça commence vraiment à être craignos, quoi. Et donc, il y a certains disent une ingouvernabilité de la Bolivie. D'autres diront en fait que plus qu'une ingouvernabilité, c'est une organisation communautaire ou une organisation organique. Eux, ils utilisent le terme « organico », voilà. C'est-à-dire une organisation de la population au général où, effectivement, quoi, t'as l'impression que t'as ces 80% de la population informelle avec ces organisations syndicales, de comités de quartier, d'associations de coopératives, de lignes de bus, n'importe quoi, qui font des espèces de détermination entre eux, presque en formant un État parallèle, et en voulant imposer leur souveraineté sur le territoire, c'est vraiment tous ces moments-là où la Bolivie a pu basculer dans un scénario révolutionnaire, ça s'est toujours passé autour de ces potentialités-là, c'est-à-dire comment les formes d'organisation locale, elles arrivent à créer un rapport de force, et comment même elles s'affirment dans ce rapport de force comme institution légitime face à l'État. Et là, c'est trop. Là, si tu veux, le mec qui a investi 50 000 euros dans une mine et qui voit la mine bloquée avec des paysans qui disent on va détruire les trucs et on va tuer le responsable, on va le lyncher, justice communautaire. Bon, ça va, rien ne va plus. Rien ne va plus. Et donc, cette loi-là de anti-blocage, elle est essentielle pour la droite parce que si la droite a perdu la dernière fois, c'est parce qu'elle avait peur du blocage. Disons que le rapport à la violence, que ce soit côté manifestant entre guillemets, mais surtout côté force de l'ordre, il est vraiment dit pas du tout sur les mêmes standards que ce qu'on connaît. C'est-à-dire que le fait de tirer à balles réelles sur la population, c'est ok quoi. Il y a pas de. Là par exemple, il y a quelques mois, dans les quelques communautés rurales un peu plus loin. Il y avait eu une décharge, un problème de décharge. La population, elle s'opposait à la décharge. Résultat, ils avaient bloqué. Ils voulaient bloquer l'endroit où les camions venaient déposer des poubelles. Bon, donc, intervention de la police, deux morts, balles réelles. Voilà.
Ok. Alors, depuis qu'on a commencé cette interview, il y a plusieurs choses qui sont revenues, notamment la question des rapports internationaux et la manière dont ça influe. Sur la politique intérieure de la Bolivie, mais aussi d'autres pays en Amérique latine. Justement, à ce sujet, on a pu traiter dans cette émission de la mobilisation qui s'est déroulée en Équateur en septembre dernier contre un pack de réformes en grande partie similaire à celui qui a été proposé en Bolivie. Comment est-ce que toi, tu fais le parallèle entre ces différentes situations en Amérique latine?
C'est le, si tu veux, en fait, bon, déjà pour l'Équateur, il y a un truc qu'il faut, peut-être j'ai pas mis en avant dans la discussion, c'est que, en fait, c'est quand même, ça reste le même monde que la Bolivie, l'Équateur et le Pérou. C'est quand même, c'est des Quechua. C'est des Aymara. Beaucoup, quoi. La langue qui est parlée, bien sûr, les gens parlent espagnol, mais ils parlent aussi leur langue. Et c'est déterminant dans les formes d'organisation sociale. La question de la communauté andine, de ces formes d'organisation, c'est celle qui marque encore aujourd'hui en Équateur, la CONAE, c'est la coordination des communautés quechua, en gros. Et la garde indigène, c'est la population dans la rue qui veut en découdre avec le pouvoir. Donc c'est des situations d'une manière ou d'une autre qui sont sociologiquement, historiquement, géographiquement analogues. Dans le cas de l'Équateur, moi je connais moins l'économie historique de l'Équateur. Je pense que c'est à peu près la même chose, hein, la mine et la campagne. Hein. Disons que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu une tentative à un moment donné de la gauche, Correa, puis ils avaient perdu. Bon, ce qui se passe quand même, ce qu'on observe un peu partout, c'est que la gauche, bon, alors elle perd les élections, quoi. Tu vois, on peut pas, faut pas non plus tourner autour du pot 50 fois, quoi. Donc pourquoi elle perd les élections? Il y a plein d'explications possibles. Mais une des explications, c'est de dire, si tu veux, quand tu promets la lune, tu promets une libération, tu promets quelque chose, et le quelque chose que tu promets n'arrive pas, et toi tu te corromps dans ta promesse perdue. Bon, eh bien, quand ça arrive dans un couple, ça peut passer par une excuse, deux excuses, mais à un moment donné, le partenaire se lasse, et puis il peut y avoir rupture. Et bon, ben, la gauche, quand elle était confrontée à ces difficultés chroniques qui étaient celles d'un socialisme de l'extractivisme, comment elle a pu répondre? Eh ben, par une fuite en avant sécuritaire pour se maintenir au pouvoir, dans le développement et le recyclage des vieilles pratiques de gestion, qui étaient les vieilles pratiques de gestion de corruption, de prébandalisme, qui sont issues de la nature coloniale de l'État auquel ils étaient arrivés au pouvoir. Et l'un dans l'autre, en fait, je te dis, mais c'est des merdes, en fait. Comme nous, avec le Parti Socialiste, mais en pire. Il y a cette dimension-là, hein, dans ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, en plus du fait que la gauche ait perdu les élections? Il y a ces rivalités entre les empires, et où les alliances qui avaient été construites par des petits pays comme la Bolivie, le Venezuela, qui était de se tourner vers ce qu'ils appelaient les échanges sud-sud et d'aller vers ce que Deng Xiaoping, le dirigeant chinois des années 70, avait appelé le capitalisme contre-hégémonique, ça a eu ses limites en termes de réalisation économique concrète. Et c'est peut-être là le nœud, hein, de la critique à avoir de ce qu'a été la position de la gauche. Mais cette critique nécessaire, hein, elle n'enlève pas la réalité d'une puissance en face, les États-Unis, qui disent que tout leur appartient. Dans le cas de l'Équateur, c'est quand même assez particulier, puisque c'est un pays qui était frontalier à la Colombie. La Colombie a vécu un accord entre les FARC, la gauche, et disons a réarticulé ce qu'avaient été les difficultés d'une économie narco vers l'Équateur. L'Équateur était devenu, il reste encore, hein, un hub, hein, d'exportation, ce qui explique aussi son instabilité. Bon, aujourd'hui, ce qui s'oppose à ça, c'est la CONAE, c'est les organisations communautaires, c'est la population en général, les organisations ouvrières et compagnie. C'est ça qui dit, bon, bah, qui dénonce ça. Et pourtant, eh ben, on n'a jamais vu Donald Trump parler de l'Équateur comme d'un narco-État. C'est-à-dire qu'il y a des bons narco-États, il y a des mauvais narco-États. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de narcos en Bolivie, qu'il n'y en a pas eu à l'époque d'Evo Morales, ou quoi que ce soit. Je suis en train de dire que selon qui t'es dans le rapport de force géo-international, je ne sais pas quoi, eh ben, soit t'es arrêté, soit on dit rien. Alors heureusement, ben là, la Bolivie, elle a su passer du bon côté au bon moment, donc on va rien dire. Ça va continuer tranquillement, comme en Équateur. C'est ça qui est un peu difficile dans la période où cette question-là, elle est réelle et instrumentalisée par les États-Unis dans un discours de lutte contre la drogue où il s'agit en réalité non seulement, pas seulement de se réapproprier le marché de la drogue, de se réapproprier le marché, le territoire, la force de travail. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Par contre, ce qui existe et qui va continuer à exister dans les différents pays, par exemple, où on a pris l'exemple des Andes, ou au Pérou, par exemple, dans ces trois pays-là, c'est que l'expérience accumulée de ce tissu organisationnel populaire, lui, certes, il a vécu quelque chose, c'est-à-dire qu'il a été embrigadé dans une histoire, quelque part. Hein. Certains diraient que ce n'est pas forcément leur histoire. L'histoire de la gauche, la néo-gauche du XXIe siècle, ce n'est pas forcément l'histoire des communautés populaires andines. Mais en tout cas, il y a eu ce rapprochement. Bon, s'il y en a un qui a échoué, le socialisme du XXIe siècle, en tout cas, connaît des revers, ça ne veut pas dire que l'autre a disparu en tant qu'acteur historique. Et que ce soit en Équateur, avec les formes que ça a eues, ou la Bolivie, dans son ingouvernabilité ou sa surgouvernabilité populaire, ça continue. Les Andes restent éternelles.
Ok. Et c'est quoi les enjeux qui se dessinent pour les prochaines périodes de manière un peu immédiate au niveau local là ?
Il y a une actualité brûlante là en Bolivie qui surdétermine tous les enjeux. C'est Carnaval. C'est au moins ce qui ne s'arrête pas. La présence, dans les rues du Carnaval de toute la population. Mais jamais sans rappeler la présence de la population dans les rues pendant les manifestations. Et les grandes fêtes populaires en Bolivie, elles ont toujours la couleur de leur période politique. Donc je pense qu'on va vivre un carnaval peut-être heureux, peut-être heureux d'avoir retourné la situation, peut-être triste un peu de cette période de nostalgie d'un socialisme qui n'a pas marché, puis en même temps de ressentiment vis-à-vis de la corruption, apeuré peut-être d'un avenir incertain avec les États-Unis, le néolibéralisme et compagnie. Mais en attendant, les gens vont danser, sans doute vont boire hein, un peu et manger beaucoup. Donc ça va être la période qui arrive. Après ça, il va y avoir les élections. C'est les élections municipales. C'est devenu très compliqué, hein, les notions de démocratie en Bolivie sont devenues très compliquées parce qu'il y a toute une notion de partis politiques qui sont autorisés, pas autorisés. En même temps, une fois qu'on a un parti politique qui est autorisé, on peut le vendre à n'importe qui. Parce que selon qui t'es aussi, c'est légal, pas légal. C'est-à-dire actuellement, là, quand même, toute l'équipe de Evo Morales, c'est pas légal, quoi. Hein. Donc il y a toute cette dimension-là de la légalité de la démocratie. Puis une fois qu'on est légal, par contre, c'est à vendre. C'est-à-dire c'est le marché. Donc, et les élections municipales, c'est très compliqué. Et alors, les élections municipales dans la zone où je suis, la municipalité de Quillacollo, c'est pas reluisant. C'est pas reluisant. Et donc, toutes les formes de contrôle des organisations sociales sur les processus électoraux municipaux sont désarticulées, par exemple. Justement, des enjeux, ça a souvent été ça qui a été reproché aux masses. Justement en termes de limites, non pas économiques, mais cette fois-ci de gestion politique, c'est de dire pourquoi l'échelle au moins municipale, elle ne pourrait pas être gérée directement par les organisations sociales, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, par exemple, dans les zones périurbaines et dans les zones rurales, est très demandé. Et quand ce n'est pas demandé, il y a quand même une grosse force d'arrangement pour essayer de déterminer le vote collectivement, quoi. Mmh. Et là, c'est tout. Toutes ces logiques-là sont vraiment désarticulées parce que, en somme, le pari qui avait été le MAS, c'était que ces organisations-là se dotent d'un instrument politique qui a eu toutes ses limites, hein, puisque finalement, c'est-à-dire que l'organisation elle-même est devenue le lieu du prébandalisme, le lieu de la corruption. Bon, toute cette logique-là, avec ses limites, elle a été largement dissolue. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est des tractations entre partis politiques et factions d'organisations sociales. Et donc, on est vraiment dans la grosse tambouille à la corruption, à la promesse de poste, On observe ça hein, aussi en France, dans beaucoup de municipalités. C'est pas aussi visibilisé, mais les logiques sont un peu les mêmes. Hein. Quand toi, tu as une association et que tu votes pour le mec du PS parce que c'est ton pote et si tu votes pas pour lui, tu auras plus de subvention à ton association, c'est les mêmes logiques. Hein. C'est les mêmes logiques, sauf que chez nous, on pense qu'elles sont plus feutrées. Voilà. Donc là, ce qui se joue aujourd'hui, c'est quand même une grande offensive quoi, de perte de contrôle des organisations sociales sur leur territoire au travers de ce que peut être ces enjeux municipaux quand même. Hein, ces enjeux municipaux. Après, c'est pas plus mal parce que si tu veux, ce va-et-vient permanent entre pouvoirs municipaux et organisations sociales, il a créé aussi une culture du clientélisme. Et quelque part, aujourd'hui, les organisations sociales, elles sont en face de leurs responsabilités. Voilà. C'est-à-dire que soit on revient ou on va vers une défense des intérêts de tous, soit tout à chacun vend son âme et son corps à le dernier venu, clown, qui, en plus, comme il y en a 50 et qui sont tous à vendre, tu sais même pas sur lequel miser. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, c'est non seulement tu te vends, mais tu sais même pas qui va gagner c'est le panier de crabes. Donc voilà, là, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de distance vis-à-vis de ces scénarios, en tout cas au niveau des organisations sociales, quoi. Parce que si tu veux quelqu'un qui va commencer à parler de ça dans l'Assemblée, bon, bah, tout le monde va le regarder de manière un peu suspicieuse, quoi.
Ok, donc là, il y a carnaval. Ensuite, il y a les enjeux donc, des élections. Au-delà de ça, et au-delà des questions qui ont été soulevées par la mobilisation du mois de décembre dernier sur laquelle on a pris le temps de revenir en détail. Est-ce qu'il y a des problématiques qu'on n'aurait pas abordées ensemble qui, selon toi, risquent d'être à l'origine de futurs nœuds de tension, de résistance?
En fait, il y a eu beaucoup d'incendies. Et en fait, ces incendies sont volontaires parce qu'une fois que tu as incendié, en fait, ça passe de terre d'État à terre que tu peux vendre. Ensuite, il y a tout un tas de trucs en fait, vis-à-vis de la mine. Des mines coopératives, même qu'elles soient coopératives ou multinationales, quoi que ce soit, vis-à-vis de la minerie, où il y a des formes de contamination très dures. Et puis, comme c'est des secteurs à haute valeur ajoutée, c'est des secteurs qui se mélangent beaucoup avec l'économie narco, etc. Enfin, c'est assez compliqué. Ça crée des situations vraiment de contamination de l'eau, etc. pour d'autres populations, notamment les populations agricoles. Et il y a tout un tas d'enjeux, notamment par rapport aux ressources. En fait, si tu veux, là, on a l'impression qu'avec ce qui va se passer, avec l'arrivée des multinationales et tout, s'il y a cette ouverture aux multinationales qui est faite sur les ressources, ça veut dire que tout ce qui est terres rares, lithium, tous les trucs comme ça, etc., ou même toutes les ressources en général, elles vont être exploitées de manière soit plus intensive, soit différemment, en tout cas par un autre capital, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a toute une tension entre les populations qui habitent ces territoires et les multinationales. Et c'est ce qui est en train de se passer à un endroit qui s'appelle Tarkia, et où en fait des gens se sont opposés à la multinationale qui était venue, etc. Et là, ils sont en train de passer en procès, et en fait, si tu veux, ça devient un peu symptomatique de ce qui va sans doute arriver, c'est-à-dire d'une confrontation pour le territoire. Il y a des multinationales qui vont dire « le territoire, il est à nous, on l'a acheté, on en fait ça ». Et d'autres populations qui vont dire « non, le territoire, il est à nous, toi tu l'as acheté, on s'en fout, il est à nous parce que c'est en dehors de la notion qu'on l'a acheté, et de toute façon, c'est à nous, et qu'en fait, on va se battre pour l'usage du territoire ». Et ça, c'est je pense que ça va être déterminant dans les moments à venir. Et ça rattache aussi cette question de l'Amazonie. Tu vois, si tu as une Amazonie en feu, des Andes contaminées, Ça entraîne des luttes. Ici, dans la vallée de Cochabamba, dans le tissu urbain de la vallée de Cochabamba, il y a un vrai problème autour de la... En fait, il n'y a pas de gestion de déchets. Les entreprises, elles ne payent pas. Tout le monde jette. Donc, en fait, tout est structurellement corrompu. En plus, tout le monde le sait. Les déchets, partout dans le monde, c'est d'un endroit encore plus opaque que d'autres activités, quoi. Et donc, en fait, il y a structurellement, une explosion de poubelles à l'intérieur de la ville, ce qui crée des contaminations, des choses comme ça, mais ce qui crée aussi une crise politique. Crée une crise politique, parce que personne ne veut recevoir les, les déchets, parce que structurellement, il y a des déchets, et donc on va vers une guerre de cette question-là aussi. Enfin, je veux dire, les enjeux territoriaux, les enjeux, entre guillemets, écologiques, entraînent des formes de politisation et de mobilisation populaire. Que ce soit les incendies chroniques de l'Amazonie, la contamination des eaux des Andes par les activités minières, ou la gestion des déchets dans les tissus urbains. Ces luttes-là, entre guillemets, écologiques, elles sont présentes quand même dans le discours politique bolivien, que ce soit dans mon syndicat, dans un autre, dans un groupe urbain, dans, je ne sais guère, tu vois, collectif de jeunes, tu vois, n'importe quoi. C'est des questions présentes. Des questions présentes. Qui sont plus politisés qu'en France, parce qu'ils ne sont pas justement... C'est des problèmes que nous, on appelle écologie, mais qui sont abordés sous une dimension bien évidemment écologique, mais aussi territoriale, sociale. La notion d'extractivisme, la notion d'externalisation, la notion... Donc, c'est tout un tas de conceptualisations, de politisations, d'enjeux sur les territoires qui sont présentes dans la politisation des gens, quoi.
Eh ben, merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin ?
En gros, ce que je me dis, si tu veux, mot de la fin, c'est que, il y a une tendance, si tu veux, à ce que l'Empire, quand même, tu vois, en tout cas en Occident, tend, quoi, tu vois, vers un truc à l'extrême droite. Et les coins qu'on pensait qui n'étaient pas comme ça, en fait, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui est stable. Et tout dépend de l'organisation populaire et puis la fidélité à toutes ces histoires de résistance et puis l'amour qu'on peut porter aussi aux espoirs qu'on y met. Voilà. Et joyeux carnaval à tout le monde.
Pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça avait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.